Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de la médecine scolaire dans le contexte de la maladie à virus Ebola. Vous savez, de plus en plus, certaines écoles sont dotées des dispensaires scolaires. C'est là dans le souci de contribuer à l'amélioration de la santé des élèves et des enseignants. Et d'après les experts, ces structures permettent aussi de contribuer à la réduction du taux d'absentéisme des élèves à cause de leur état de santé. L'élève malade peut bénéficier des soins et épargner les parents de beaucoup de stress lorsqu'ils apprennent que leur enfant est tombé malade. Alors, quelle est l'importance de cette médecine scolaire dans le contexte de la maladie à virus Ebola? On avait suivi l'année passée, certains parents refusaient d'envoyer les enfants à l'école à Beni, par exemple, à cause de la maladie à virus Ebola. Alors, qu'est-ce qui doit être fait dans ce contexte? Nous avons dans ce studio le docteur Kebela, il est le coordonnateur adjoint du comité de riposte contre la maladie à virus Ebola. Docteur Kebela, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, quelle est la situation de la maladie à virus Ebola? Pour commencer.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de. On a dépassé l'essai de 2000. Pour le nombre de cas, je n'ai pas tellement ces chiffres. Même pour les décès, on a dépassé l'essai de 2000. Il faut dire que c'est parmi la plus grande épidémie que le pays n'a jamais connue.
Alors, avec la rentrée scolaire, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans les zones affectées pour éviter la transmission au niveau des écoles? La contamination, si on peut le dire ainsi.
Bon, d'une façon générale, je peux vous dire, l'étudiant stratégie lutte contre Ebola. Donc, vous avez, comme dans le contexte des maladies, vous avez les activités que vous devez faire avant que les cas éclatent. C'est quoi? Vous avez là, cette sensibilisation pour le changement de comportement qui est le plus important. Et puis, deux, vous avez aussi, s'il y a apparition des cas, d'envoyer que l'individu puisse aller plus vite au niveau de cette aide, tester pour confirmer et puis pour prise en charge. Donc toutes les activités qui sont avant le développement des maladies, ce sont des actes préventives. Et puis je crois qu'au niveau des écoles, vous voyez, on a placé même les bacs pour se laver les mains. Il y a d'abord cette sensibilisation, il faut se laver les mains pour prévenir la contamination. Et puis aussi il y a aussi même pour cela, même pour la sensibilisation, on vous dit il faut éviter de vous serrer les mains, il faut faire attention avec du côté hygiène de latrine, il faut faire attention. Et puis maintenant il y a quelque chose de très important, il y a la vaccination maintenant
dans les écoles aussi.
Non, c'est de façon, générale.
D'accord.
Mais maintenant, quand il y a apparition des cas, quelles sont les activités? Il y a apparition des cas, le défi est d'éviter les décès ou de réduire les décès, et c'est ainsi que nous avons actuellement la molécule qui est efficace, qui arrive à soigner, qui arrive à tuer le virus. Donc, il faut retenir les grandes activités avant l'apparition des cas. Ça, ce sont les activités préventives, qui sont ce que j'ai dit ici, l'ascension pour le changement de comportement avant l'apparition des cas. Vous avez les autres activités où il faut, pour l'utiliser, pour le lavage de mains, il y a les activités, il faut avoir de la latrine propre, ça c'est avant. Il y a aussi d'autres activités, comme il y a des structures de soins au niveau des écoles. Ah, il faut être rigoureux avec l'hygiène hospitalière. Parce que sinon, les gens peuvent se contaminer, beaucoup se contaminent au niveau des structures de soins, qu'on appelle les infections nosocomiales. La deuxième activité, c'est cette activité pour, quand on est malade, pour qu'on n'ait pas mourir, il faut aller vite au niveau des centres, et puis au niveau des centres, il y a cette molécule qu'on utilise maintenant. Et puis, aller vite au niveau des centres.
Si vous avez, écoles, il y a de plus en plus des dispensaires.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y aille vite. Les personnels des centres ici seront considérés comme des centres de triage. Les personnels, s'ils arrivent là, les personnels médicaux qui sont là, ils tuent les déficits de cas. Si tout le déficit de cas correspond à la déficit de cas de la maladie de virus, voilà, ils l'orientent vers les structures. On peut bien prendre les soins appropriés. Donc, comme maintenant au niveau des écoles, vous avez posé la question, est-ce que maintenant, je peux dire, oui, les écoles peuvent être là si on respecte tout ce qu'on dit, on respecte toutes les activités avant qu'on puisse attraper la maladie. Et pour qu'on respecte ce qu'on a dit après, quand il y a des cas, les enfants peuvent être. Mais si l'épidémie est, au moment où l'épidémie est très importante, il est conseillé de garder les enfants à la maison pour quelques semaines. Quand, il faut garder pour quelques semaines parce que quand vous avez ce rassemblement des gens, les gens, certaines personnes sont venues même, sont parties au niveau des funérailles, ils viennent, ils se touchent. Quand l'épidémie n'est pas importante, il faut garder les enfants à la maison. Une fois l'épidémie est contrôlée, quand elle est contrôlée, l'autorité vous dira, bon, les enfants peuvent venir, peuvent fréquenter l'école. Les contrôler, c'est-à-dire que s'il y a certains indicateurs qui montrent que l'épidémie est contrôlée, dans la communauté, on constate que les décès communautaires ne sont plus là. On constate que tous les cas qu'on a, ce sont des cas qui sont de contacts connus, c'est-à-dire que toutes les chaînes sont contrôlées. Je pense à ce moment-là, on peut dire aux enfants de rentrer à l'école. Mais quand on n'a pas contrôlé, quand ce n'est pas contrôlé, les conseils des enfants rentrent à l'école.
Donc actuellement, à Goma, à Beni, à Bounia, les enfants peuvent aller à l'école sans problème, dans le sud Kivu. Aussi.
Dans le sud de Kivu, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
Parce que même les cas qui étaient c'était à 135 km de Bukavu, ce cas est contrôlé. Pourquoi? Parce qu'après, il n'y a pas de chaîne. Vous voyez, les cas qui sont malades, qu'on a pris en charge, mais après eux, il n'y a pas d'autres cas. Il n'y a pas de chaîne de transmission, il n'y a pas de violence de transmission. Donc, c'est contrôlé. À Goma, il n'y a pas de problème. Parce qu'à Goma, maintenant, on a été passé plus de 21 jours.
Il n'y a plus de nouveaux cas.
Non. D'abord, une épidémie, ce n'est pas parce que vous avez les cas. Comme à Goma, c'était un cas qui venait d'ailleurs. Mais le cas qui venait d'ailleurs, il faut l'évidence de la transmission locale. C'est-à-dire que l'évidence, quand les cas primaires y arrivent, il y a l'apparition des cas secondaires. Et puis les autres, bien sûr, à Goma, il y a eu l'apparition des cas secondaires. On a eu une petite transmission locale, mais qu'on a atteint. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. C'est plus de 21 jours. Récemment, le professeur Mouyembe était là avec tous les moyens qu'on a mis. On a été ça. À Bukavu, même au sud de Kivu, même chose. Maintenant, le problème, c'est seulement au nord de Kivu, à l'Ituri, que nous avons les problèmes. Hein. Que ce soit à Butembo, que ce soit à Beni, je pense que c'est contrôlé, puisqu'il y a une réduction sensible des décès communautaires. Et puis, maintenant, on commence à voir tous les cas qui viennent. Qu'on détecte aujourd'hui sont des cas qui étaient connus comme contacts. Donc, par là, on peut dire qu'on a maîtrisé, il y a contrôle. Il y a contrôle, je dis bien contrôle.
Il y a contrôle, ouais.
Il y a contrôle, puisque les cas ne sortent que d'une seule chaîne de transmission, une chaîne connue. Pourquoi? Parce que les cas qu'on a maintenant sont des contacts qui sont étaient lissés, qui sont connus. À Butembo, à Beni, je pense à la même chose, mais les problèmes, nous avons un peu les problèmes en Ituri, vers Mangina qui a des problèmes, et puis vers là où ça, c'est la route ce qui va à Kisangani, vers Sommet, on a encore des problèmes parce que tout, nous avons des sites, des stations artisanales de l'or, où les carrières là, on a encore des problèmes. Mais je pense que nous ne disons pas que nous avons maîtrisé, nous disons que nous avons les contrôles. Je dis bien contrôle.
Contrôle. Et que les enfants peuvent aller à l'école, il n'y a pas de soucis.
Il n'y a pas de soucis.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, docteur Kevela. J'ai le temps de donner la parole également à docteur Anissé. Docteur Anissé, on parle aujourd'hui de l'importance de la médecine scolaire. D'abord, c'est quoi la médecine scolaire et quelle peut être sa contribution dans la lutte contre la maladie à virus Ebola?
Merci Jody, merci aussi à Dr Kebela qui, avec le prof Mouyembe, qui joue un rôle très très important dans le contrôle de la maladie à virus d'Ebola actuellement, celle qui sévit dans, à l'est de notre pays. Vous avez bien suivi, la médecine scolaire c'est en fait pour la promotion de la santé à l'école. Parce que je dis, généralement, les gens confondent. Il y a 3 jours, les enfants sont retournés à l'école. Tout le monde s'intéresse à parler de la gratuité en ce qui concerne l'école. Mais ils oublient ce qui est très, très important, qui détermine les performances des enfants à l'école. C'est la médecine scolaire. Et dans le cadre plus précis de Ebola, regardez, la médecine scolaire a des activités. C'est tout un programme. C'est pas seulement une petite infirmerie. C'est beaucoup plus que ça. Mmh. Je parle des activités, comme l'a dit Dr. Kebela, préventives, promotionnelles et même curatives. Je prends, par exemple, regardez, quand il parle de la prévention contre Ebola, dans le cas de la médecine scolaire a aussi une des activités qui est l'éducation sanitaire et santé communautaire. Il a parlé de la sensibilisation. Ça signifie, à l'école, déjà à ce moment, les enseignants, la personne qu'on utilise à l'infirmerie doit être sensibilisée, doit participer dans la surveillance épidémiologique à base communautaire, doit participer à tout ce que l'équipe de riposte donne comme orientation en ce qui concerne Ebola dans les écoles. Et d'ailleurs, ça se résume par rapport à ce que nous avons dit ici, en prenant les cinq doigts. Il a parlé de la sensibilisation. Là où il n'y a pas la sensibilisation, c'est la rumeur. Là où il n'y a pas la sensibilisation, la formation, c'est la panique, la peur. Alors qu'il vient de nous rassurer, et c'est vrai, on a non seulement les médicaments, on a les vaccins, on a les médicaments. On a les médicaments actuellement. Pourquoi avoir peur? Pourquoi céder aux rumeurs? Donc, dans les écoles, maintenant, ceux qui nous écoutent maintenant, ils doivent savoir. Dans le cas de la médecine scolaire, la médecine scolaire vise aussi à dépister les maladies infectieuses, vise à donner l'information correcte. Or, l'information correcte, c'est entre les mains de l'équipe de riposte. C'est pas le monsieur qui est dans la rue qui vous raconte n'importe quoi ou je ne sais pas. Je suis chrétien. Je dis pas le pasteur qui dit je vais imposer les mains. Non, il faut avoir l'information correcte auprès de l'équipe par rapport à la protection contre Ebola. Il a insisté sur l'hygiène. L'hygiène, les enfants rentrent à l'école. Dans les contextes d'épidémie, j'étais avec Dr. Kebela Kikwit quand il y avait la polio. Il insistait toujours, dans les contextes d'épidémie, je prends actuellement à Nitouri, dans ces contextes, les enfants rentrent à l'école. Mais soyez prudents avec les embrassades, les accolades, l'hygiène de mains, les écoles.
Est-ce qu'il y a des points de lavage de mains dans toutes les écoles aujourd'hui, docteur Kebela?
Docteur Kebela, vous avez été là.
Bon, la stratégie recommande ça. Il y a des écoles, je ne peux pas dire toutes les écoles, il y a des écoles, la plupart des écoles, il y a lavage de mains. Et vous savez, là, je ne sais pas, si on voit la vie scolaire, ça va ensemble, ça vit dans la communauté. Et bon, là, c'est un problème de la communauté. Qui dit la communauté, dit les parents et les enfants. Hein, vous comprenez Et puis l'amplification de Ebola, c'est dans la communauté au niveau des structures de soins. Au niveau de la communauté, vous avez les villages, vous avez des écoles. Vous avez des écoles au niveau de la communauté. Donc, comme il est dit, il faut renforcer la sensibilisation pour le changement de comportement. Qu'on puisse avoir un comportement responsable, un comportement surtout axé sur l'hygiène corporelle.
J'imagine que les enfants n'ont pas assez d'informations par rapport à Ebola.
Non, moi je pense que les enfants, parce que quand on va gérer Ebola, il y a des communautés, les groupes qu'on rencontre. Il y a les groupes, comité scolaire, les enseignants, et après on rencontre les enfants. On a vu, nous avons eu l'expérience, certaines épidémies, ce sont les enfants qui disent aux parents, attention. Voilà ce qu'on nous a dit à l'école. Je peux donner un exemple. On était, il y a l'épidémie de Wendé, il y a une maman qui est partie avec son enfant en bourse, la maman a observé, il y a une antilope qui était morte, il voulait les prendre, l'enfant a dit, non, on nous a dit à l'école, il n'a pas touché. Tout à l'heure, on ne faut pas toucher. La maman s'est entêtée, la maman, puis l'enfant a couru au village. Il a trouvé son père, il était assis avec le chef du village. Il dit,
l'enfant donne l'information. Oui, maman a touché.
Il a dit, maman va toucher. Et les villageois, les parents sont venus. On a dit, prends cette télé. On a dit à maman de ne pas, de se laver les mains, on l'a enterré. Donc c'est l'enfant qui a dit à sa mère.
Oui.
Et l'enfant a dit, on nous a dit ça à l'école. Non, mais je crois même. Si on la force du côté enfant, c'est parce que les enfants éduquent aussi les parents.
Ils retiennent facilement ce qu'on leur dit.
Et puis l'enfant, c'est son enseignant lui a dit, ça devient la Bible.
Oui, c'est la parole d'Évangile.
On nous a dit ça.
Oui. Mais ce que vous voyez, je dis, ça rejoint exactement ce que nous avons dit par rapport aux cinq doigts. Docteur Kebel a parlé de la sensibilisation, c'est-à-dire dès les enfants qui rentrent à l'école, éviter la rumeur, éviter la panique. Parce qu'aujourd'hui, on est fiers, on a le médicament. Aujourd'hui, l'équipe de surveillance, l'équipe de riposte est sur le terrain. Deux, que faire dès qu'on a un problème de l'hygiène? Les enfants rentrent à l'école. attention, l'hygiène des mains, l'hygiène, tout ce que nous voulons à l'école, les embrassades, les accolades. Trois, qu'est faire, il vient de donner un très bel exemple, qu'est faire s'il y a un animal qui est mort de lui-même en forêt. Là aussi, les instructions sont claires. Ne touchez pas, ne les manipulez pas. Et que faire si, ça c'est la quatrième, que faire devant un malade en Ituri, partout il y a des numéros où on peut appeler. Les enfants sont très très forts dans ça. Appelez tel numéro dès qu'on a un problème, ou bien appelez les centres de santé les plus proches, ou appelez ceux qui sont dans la riposte. Donc, les enfants, l'école joue un rôle très très important. Je reviens sur les infirmeries. Attention! Je reviens sur ce que Dr Kebela disait.
Oui.
En zone d'épidémie, monsieur l'infirmier qui est à l'hôpital, attention, un enfant qui vient avec la fièvre.
Qui est au dispensaire à l'école.
Ne parle même pas des dispensaires. Ce sont des petites, petites infirmeries.
Oui.
Mais ce n'est pas ça la médecine scolaire. La médecine scolaire, dans les cas de dépistage, et surtout dans une zone avec une épidémie, il faut suivre scrupuleusement toutes les instructions, toutes les règles par rapport à la prévention des Ebola.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà trois auditeurs en ligne. Platini Mbombo, qui nous appelle de Mbandaka, Joël Zakissa et Tamahagi, et Serge King, qui nous appelle de Kindu. Vous avez des questions et préoccupations, composez les 081-890-63-94.
Ngoma ya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi. La radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Bien, nous parlons de l'importance de la médecine scolaire dans le contexte de la maladie à virus d'Ebola. Platini Mbombo, vous êtes en Bandaka, Joël de Mahagi, Serge Kingi de Kindu. Soyez bref dans vos interventions. Bonjour Platini, quelle est votre question ?
Bonjour, bonjour, bonjour les invités, bonjour à tous les auditeurs à travers les pays.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup aujourd'hui, je crois que je serai peut-être trop bref par rapport à la thématique du jour. Et je sais que je remercie aussi vous pour le sujet très important à rapport avec la maladie à virus Ebola. Alors moi, rapidement, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas assez de temps, mais je suis inquiet parce que moi je croyais que cette maladie est déjà partie, mais je suis surpris qu'il y a encore Ebola toujours en RDC. Alors moi, je voudrais avoir l'idée de demander à l'invité qui est là-bas au studio avec vous, parce que l'invité parle par rapport à la sensibilisation. Alors, comme il y a aussi d'autres provinces qui n'ont pas maladie à virus Ebola, qui ne touchent même pas. Et si l'invité dit ça par rapport à la sensibilisation, il adresse à qui? Dans quelle province? Parce que nous, on sait qu'il y a maladie à virus Ebola dans l'est du pays. Je suis content,
oui.
La maladie était à l'époque, mais pour le moment, il n'y en a pas. Mais l'invité adresse les messages à deux. La province qui est touchée à maladie à virus Ebola, je ne sais pas, parce que tout le monde sait que la rentrée scolaire est effective à travers le pays. Mais dans les sept coins-là, est-ce que les Américains sont partis par là parce qu'il y avait la maladie à virus Ebola. Et pour le moment, si l'invité peut me dire l'état des lignes, ah, parce qu'il parlait de la riposte, par-ci, par-là, tout ça. Et les professeurs, les enseignants n'ont pas sensibilisé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a-t-il possible de faire une monitoring sensibilisation au niveau des enseignants, des écoles primaires et secondaires, pour prévenir les enfants qui viennent franchement au niveau de l'école? Voilà un peu ce que je voudrais avoir un peu l'idée par rapport à ça, parce que le vidéo lui-même dit, par rapport à la sensibilisation, les enfants viennent par-ci, par-là, il y a des...
D'accord, merci Platini. Il y a quelques coupures au niveau de la liaison téléphonique. On va accueillir Joël Zakissa de Mahagi. Bonjour Joël.
Et bonjour Jody et bonjour à nos invités de jeu.
Quelle est votre question rapidement?
Ok, je voulais saluer cette belle thématique du jour parce que c'est vrai, nous allons faire le tour de rentrer sur les bases scolaires. Mais j'annonce que l'épidémie d'Ebola est en train, en tout cas, de ravager, en tout cas, vraiment les gens. Et ici, à Mahagi, chez nous, il n'y a même pas une école où il y a, en tout cas, là où on a installé le... laver les mains.
Vous dites qu'à Mahagi, il n'y a pas de point de lavage de mains?
Non. Oui, oui. Il n'y a pas eu, en tout cas, les écoles où on a mis des endroits où on pourra laver les mains. Les enfants sont souvent des va-et-vient, ils sont rientrés, ils sont vraiment exposés. Alors maintenant, je voulais poser ma question à l'église du jour. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure prise afin de pouvoir garder nos enfants, nos frères et sœurs, pour qu'ils soient quand même en tout cas protégés? Parce que quand Ebola la prend déjà, et à Mali, nous sommes vraiment dans des endroits réguliers. Il n'y a pas moyen qu'il y ait en tout cas des réservations. Encore, Ebola, quand il prend les gens, donc ça ne dure pas et carrément on risque de connaître le cas. Déjà, il n'y a pas une mesure prise pour que nos frères et sœurs soient quand même protégés face à cette maladie. Merci bien, c'est Joël là.
Bien. Serge King, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à nos invités aussi d'aujourd'hui. Le sujet est tellement intéressant. Sans trop tard, prendre beaucoup de temps, je m'engage directement à la question.
Oui, quelle est la question?
Oui, j'aimerais d'abord savoir pourquoi seulement les gens, ou soit ceux qui sensibilisent cette maladie, ils se font voir souvent dans des aéroports, alors que avec leur thermoflash, ils ne savent pas que même s'ils se présentaient à l'aéroport, une personne qui vient peut-être des endroits où il y avait la maladie de l'Ebola, avec les pieds ou soit les souliers. Aux souliers, il y a des virus qui peuvent s'entacher là-bas. Alors, même s'ils s'entachent beaucoup à l'aéroport, alors les souliers peuvent être désinfectés. Je souhaiterais que même à l'aéroport où ils s'intéressent plus, alors qu'ils puissent s'intéresser au niveau aussi des endroits où ils sont très reculés, ou soit d'autres endroits, ils souhaiteraient mieux qu'ils puissent mettre un peu les désinfectants pour désinfecter les souliers des autres qui arrivent dans des zones très reculées par rapport à cette maladie. Et j'aimerais aussi poser, à quand la sensibilisation de cette maladie? Nous nous intéressons aujourd'hui dans les différentes écoles. Je vous assure, ce n'est pas seulement les écoles, la maladie à virus Ebola qui fait battre les records par rapport à nos enfants ou à nos petits et petites sœurs. Aux écoles, je vous assure, il y a de ces écoles-là qui n'ont même pas de latrine. Alors, vous savez, il y a des petites filles, il y a des maladies là, et vous savez, la manière, je m'excuse, les filles s'accroupissent souvent pour uriner. Et il y a des bactéries qui peuvent entrer pour causer beaucoup de maladies. Et une fille, les écoles qui n'ont pas de latrines, vous voyez que ça doit causer beaucoup de maladies, c'est nos petites sœurs. Je souhaiterais que, comme il y a des associations ici, à Kindu, cette équipe de sensibilisation qui vient d'Enda de Kinshasa puisse être en contact. Je vois.
D'accord. Merci Serge. D'accord.
Avec les Afriques du Congo,
merci.
Ils peuvent prendre en charge toutes ces responsabilités pour sensibiliser la population.
Merci, merci Serge. Guido, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour, je dis bonjour à nos deux invités, le docteur Anissé et le docteur Kibela. En fait, j'ai suivi avec intérêt leurs interventions par rapport à cette sensibilisation de la maladie virus Ebola. Et je voulais juste poser la question au docteur Anissé, soit à celui qui sera prêt pour répondre. Est-ce que nous pouvons, parce que nous sommes aussi dans cette sensibilisation-là de la maladie virus Ebola dans différentes écoles, différents ménages ici à Lubumbashi, on voulait atteindre peut-être la RDC si tout va bien. Alors, j'aimerais avoir de près du docteur Anissé et le docteur Kébéla les plans de contingence de la maladie à virus Ebola au niveau national. Et aussi, je voulais ajouter par rapport à l'apport que j'ai, que toutes les zones de santé des provinces doivent avoir les plans de contingence de la maladie à virus Ebola et notifier les activités, différentes activités qui doivent se faire pour mettre fin
à... D'accord. Merci Guido de Ilunga. De Lubumbashi, on va donner la parole à Glody qui nous appelle de Bandounouville. Bonjour Glody.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à nos invités qui sont là en studio.
Rapidement, merci, quelle est la question?
Merci beaucoup pour la parole accordée. Ici, dans la ville de Bandounou, nous constatons qu'il y a des écoles primaires tout comme secondaires, il n'y a pas même de latrines. Les enfants font des besoins au niveau... les savanes, tout ça, c'est pas quand même propre. Alors, quels sont les modes de prévention que vous pouvez dire à ces gens-là? Parce que là, nous constatons qu'il n'y a pas vraiment les conditions d'hygiène. Et quelles sont les conditions requises afin de ne pas tomber à cette maladie-là? Parce que il faut d'abord sensibiliser les enseignants. Quand vous sensibilisez les enseignants, comme ça, les enseignants peuvent imposer aux enfants et aux enfants aussi peut changer. Alors, ce que nous constatons vraiment généralement, c'est ça. Il y a la rentrée ici à la ville de Bandounou, mais nous constatons qu'il y a la majorité des enfants qui sont là encore à la maison, qui sont là en train d'attendre. Parfois, l'Ebola est en train de circuler. Il y a trop de rumeurs qui circulent précisément dans notre province du Kivu. Mmh. Alors je demande à notre invité, il peut vraiment citer les provinces là qui sont ciblées par des cas suspects de la maladie à virus Ebola et des cas réels, parce que nous constatons vraiment trop de rumeurs au niveau de la ville, n'importe qui parle. Alors voilà, l'Ebola est abattu dans nos villes, tout ça, on ne sait pas, qu'on n'a pas de précisions pour déterminer.
Alors, merci Glody. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Kébéla, vous avez la parole.
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais d'abord répondre à celui, au dernier, qui a parlé qu'il y a l'épidémie d'Ebola partout. L'Ebola, c'est une maladie...
Docteur, restez devant votre micro.
Oui, l'Ebola est endémique dans ce pays. Pourquoi elle est endémique? Nous avons tous les facteurs favorisant l'éclosion d'Ebola. L'Ebola vient souvent des zones forestières. Et notre pays, vous avez une grande superficie de la cuvette centrale. Les provinces, il y a plusieurs 26 provinces. Sur 26 provinces, la moitié des provinces peut faire Ebola. Est exposé à Ebola. Puisque si vous prenez la moitié des provinces, plus de la moitié, nous sommes dans les régions forestières. Les provinces à grand risque. Les autres sont à risque, même si à la fin ça va, mais les provinces à grand risque, ce sont les provinces, toutes les provinces de l'Équateur, c'est dans la forêt. Toutes les provinces de l'ancien province orientale, c'est dans la forêt, à risque. Une partie des provinces, anciennes provinces de Kassai, vous avez Sankuru, Mweka, c'est la forêt. Même vers Kabinda, c'est la forêt. Nous avons une partie de l'Omami, c'est la forêt. Nous avons les Maniema, c'est la forêt. Et puis les Maniema, même. Nous avons les Maniema, les Nord-Kivu. La partie, c'est la forêt. Donc, nous avons les Mayombe ici. C'est la forêt. Toutes les provinces qui sont dans la forêt, les zones de santé dans la forêt, ce sont les zones de santé à risque de faire Ebola. Mais pour le moment, l'épidémie est dans le Nord-Kivu, une partie de l'Ituri, et on a eu quelques cas dans une zone de santé de Sud-Kivu, mais où il n'y a pas eu l'évidence de la transmission. Voilà, où il n'y a pas eu l'évidence de la transmission locale, on a maîtrisé. Donc tous les pays, tous les RDC, comme vous avez les pays comme le Congo en face, comme le Gabon, comme le Cameroun, même si le Cameroun n'a jamais notifié l'épidémie d'Ebola, il est à risque. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il y a des pays d'Ebola qui sont à la forêt, qui passent inaperçus? Vous comprenez? C'est-à-dire que tous ces bons que nous avons cités, ils sont à risque. Mais maintenant, l'épidémie est localisée au nord Kivu, et à l'Ituri, une partie de l'Ituri, et à
une partie du
Sud Kivu, qui était une petite chaîne.
Voilà.
Mais ailleurs, les zones de santé sont insultes depuis longtemps. Même notre surveillance que nous faisons au niveau du pays, depuis 2000, cette surveillance était basée sur les virus d'Ebola, fièvre hémorragique Ebola. Donc au niveau de toutes les zones de santé, ils sont aussi, même la sensibilisation, même les définitions des cas, ils sont capables de détecter quand il y a un cas d'Ebola. Les cas d'Ebola que nous avons eu le pays, mais ce n'est pas le niveau de santé qui a détecté, ce sont les niveaux des aires de santé de l'intérieur. C'est eux qui détectent, parce qu'ils ils ont des connaissances. Voilà, on voit un cas qui est suspect et il notifie. Là, je pense que je
Alors, Platini de Mbandaka nous dit là-bas, à l'Équateur, les enseignants ne sont pas tellement sensibilisés.
Non, c'est pas, nous avons. Il y a les zones de santé qui a toutes ces stratégies. Les zones de santé, ils ont. Les infirmiers sont. Quand c'est en dehors de l'épidémie, moi je pense que c'est la sensibilisation ordinaire. Mais quand c'est l'épidémie, il y a la sensibilisation qui devient localisée. Je pense que les infirmiers, les zones de santé, ils ont l'information. Ils ont l'information parce qu'il y a même
les enseignants dans les écoles, ils ont l'information.
Moi, je parle de structures de soins.
Des structures de soins.
Donc, les structures de soins, quand ils font leur campagne de communication, ils parlent, comme ils parlent de paralysie, ils ne doivent pas d'Ebola parce que l'Ebola est chez nous, il y a risque d'effet d'Ebola dans notre pays. Pourquoi ils n'en parleraient pas? Il devait en parler.
Oui.
Mais c'est pour éviter, il faut éviter les rumeurs. Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Mais les gens doivent savoir que nous avons un pays qui est riche, qui a une faune riche. Et dans cette faune riche, circule le virus Ebola. Ebola, c'est une zoonose. C'est-à-dire quoi? C'est une maladie des animaux qui vient accidentellement à l'homme. C'est pour cela qu'on les rencontre dans des grandes régions, dans les régions forestières, où la faune, où vous avez une faune très riche. D'accord. Notre pays a une faune riche.
Une faune riche, ouais. D'accord. Docteur Kebela, je reviens à vous tout à l'heure. Docteur Anissé Kipassa, vous avez suivi Serge Dekindou qui dit que les sensibilisateurs sont seulement au niveau des aéroports. Ils sont visibles là-bas avec leur thermoflash, alors qu'il y a certains souliers qui ne sont pas désinfectés. Dans les écoles, il n'y a pas assez de latrines et les enfants peuvent être exposés. Alors, quel rôle la médecine scolaire peut jouer pour prévenir toute la transmission, surtout au niveau des écoles qui n'ont pas de latrines, comme il a indiqué?
Merci pour Serge et aussi, je reviendrai aussi pour Glody, Guido. Pratiquement tous sont en train de parler de deux choses à la fois. Ils parlent de la sensibilisation en ce qui concerne Ebola et en même temps ils parlent aussi de l'hygiène scolaire. C'est pour ça cette émission est très très importante, pour que les gens ne confondent pas. L'hygiène scolaire n'est qu'une des activités de la médecine scolaire. Et comme l'a dit tout à l'heure la docteure Kebela, il voulait d'ailleurs, peut-être il parlera sur le plan des contingences. Mais Serge, sachez que ceux qui sont à l'aéroport, ils entrent en ligne des comptes de la surveillance épidémiologique active. Ces gens qui sont là, en fait, c'est pour arriver à dépister déjà. Alors, l'objectif de la riposte, c'est d'arrêter la circulation du virus, surtout dans ces milieux-là. Et pour arrêter la circulation du virus, il faut déjà, de prime abord, quand les gens entrent ou quand les gens sortent, pour éviter l'expansion ailleurs. Vous avez appris, c'est arrivé en Ouganda, c'est arrivé dans ces parties du Nord Kivu, on est dans le Sud Kivu, et c'est pour ça, j'ai dit, et il a attiré l'attention sur les provinces à haut risque. Si avant de nous, il y a la rumeur, c'est possible, c'est parce qu'il y a des gens qui se déplacent avec les mouvements des populations. Or, ceux qui sont à l'aéroport, avec le système actuel, ils peuvent détecter rien qu'avec la définition des cas, la définition communautaire, la fièvre. À partir de là, ils prennent des mesures de précaution.
Est-ce qu'à l'école, on peut installer aussi des gens avec les thermoflashs pour détecter la fièvre chez les enfants?
On ne va pas aller trop loin avec ça, mais nous demandons à ceux qui sont dans ces petites infirmeries de l'école, déjà, dans les zones où il y a épidémie, dès que vous avez, il y a une définition communautaire, dès que vous avez quelqu'un qui vient avec la fièvre à l'école, un enfant qui vient, dans cette zone-là, l'infirmier qui est là doit faire très attention. Donc ça tire déjà l'attention. Et il y a tout un système, la sensibilisation, la formation qui est là. Mais par rapport à l'hygiène dans les écoles où il n'y a pas de latrine, ça c'est vraiment un problème de médecine scolaire. Et la médecine scolaire va au-delà, pas seulement pour l'hygiène, mais il y a aussi les dépistages de toutes les conditions qui font que la performance ou les performances des enfants cette année-là. Vous savez, c'est facile, je dis. Toutes les mamans qui vont à l'école en disant « Moi, non, Azam, aïe, l'été. Cet enfant n'est pas intelligent. » C'est faux. L'enfant est peut-être intelligent, mais c'est peut-être parce qu'il a un problème, il n'entend pas bien. Regardez la population scolaire de Kinshasa. Vous trouverez facilement des enfants avec des lunettes. Vous pensez qu'avec la population scolaire des enfants à Kindu, à Bandundu, à Lubumbashi, à Tchela, partout, vous pensez qu'il n'y a pas des myopes? Mais seulement, les gens confondent la médecine scolaire. Et dans le cadre d'Ebola, comme l'a dit Dr. Kebela, il y a, les gens sont formés, sont sensibilisés. Ceux qui sont à l'aéroport, n'ayez pas peur. Ils sont là pour détecter. Et c'est une très bonne activité. Dès qu'on détecte, ça permet de voir la précision si c'est un problème en rapport avec Ebola. Comme ça, ça va arrêter la circulation du virus. Donc, c'est dans les cadres, justement, des mesures de précaution qu'on est en train d'envisager pour arrêter la circulation du virus dans notre pays.
Bien. Docteur Kebela, je reviens à vous tout à l'heure pour parler du plan des contingences.
Oui, et puis il y a d'autres questions.
Il y a d'autres questions pas... encore. Non, on va accueillir trois autres auditeurs qui attendent. Marius nous appelle de Kindu, Piro, Pania et Talumbashi, et Maître Gaston nous appelle de Kinshasa. Marius, bonjour. Rapidement, quelle est votre question?
Bonjour à la radio Kafi, bonjour aussi à tous les auditeurs. J'ai du moins des préoccupations. La première sera comme une petite question et la seconde sera comme une proposition. Je voulais juste savoir le signe que le malade ou la malade s'est présenté juste avant que... qui tombe malade. Alors, après la contamination, quels sont les signes que le malade peut présenter? Et puis, la deuxième préoccupation, est-ce qu'il ne serait-il pas mieux de chercher un moyen rapide pour les tests, pour les élèves, parce que ça serait aussi bien, parce que dans les écoles, s'il y a un test, chaque fois que quelqu'un connaît son état, ça pourrait aussi être bien. Et surtout avec les frontières aussi, aller plus loin avec les frontières, avec les provinces surtout, présentant les signes, présentant les cas plus d'Ebola. Est-ce qu'il ne serait-il pas mieux qu'on puisse aussi faire dans des frontières comme ça?
Merci. Pierrot Pagnan de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité et à tous les élèves qui sont maintenant là au cours. Je voulais demander quelques questions, mais avant de demander mes questions, là, je voulais demander aussi, parce que dès qu'il est en train de citer que les infirmiers soient prudents du côté là, ça nous inquiète aussi parce que je suis du domaine. Alors je voulais demander, la médecine scolaire, nous avons beaucoup de complications lorsqu'on est en train de vouloir prévenir. C'est-à-dire quoi? Moi, je payais en étant élève, je payais le frais de l'assurance, de la médecine aussi scolaire, mais je n'avais jamais été fait soigner par l'école. Alors, s'il dit que les infirmiers doivent être prudents, est-ce que avant de placer les infirmeries là du côté de l'Est, ils ont prévu aussi quelques formations avec les infirmiers pour qu'ils soient aussi vigilants? Ça, c'est une première question. Et nous savons que la RDC ici, à part les aéroports qu'on est en train de moderniser pendant que nos routes se détériorent, les gens fréquentent l'Est et l'Ouest chaque jour. Comment ils peuvent faire seulement la médecine du côté de l'Est où il y a Ebola et ils ignorent d'autres provinces?
Merci.
Comment ils font?
D'accord.
C'est ça les petites questions.
Merci. Merci. Maître Gaston de Kinshasa, bonjour rapidement. Quelle est votre question?
Je dis bonjour et je salue aussi les invités. La première question, c'est de savoir à quand la maladie à Kinshasa et
à Bakaï. Ah bon?
Ça, c'est ma première. Oui, oui, à quand, si vous pouvez nous préciser. Et puis, il y a aussi, j'ai constaté également qu'à Kaï, dans les chefs des chasseurs, vous savez, les gens vendent de l'air gibier. Aujourd'hui, tous les gibiers sont devenus des produits à risque. Et pourtant, moi, je pense que ce n'est pas tous les gibiers qui sont contaminés. Que prévoit l'État dans les cas d'espèces passées? Un manque à gagner dans les chefs des consommateurs et des...
Les vendeurs, puis, vendeurs des gibiers.
Oui, oui.
D'accord.
Je veux dire, concernant les vaccins, vous savez que les vaccins, jusqu'aujourd'hui, est en phase expérimentale, comme on l'a dit. Et par conséquent, on vaccine que ceux qui sont contaminés et ceux qui les entourent.
Vous les contacts des contacts.
C'est important par rapport aux moyens de prévention qu'on puisse vacciner tout le monde, bien que c'est en phase, parce que c'est très important quand ça se fait. Et puis je pourrais finir pour dire que vous savez, cette maladie, à mon avis, doit se déplacer non par les voies des gibiers, mais par les voies des gens qui sont contaminés.
Bien. Merci.
Parce que les gibiers, ce sont des chasseurs ici de la forêt, consommés dans leur village. Là-bas.
Merci, Maître Gaston. On va accueillir Flori à Simbuku de Goma. Bonjour, Flori. Flori, vous êtes à Goma, bonjour. Il n'est plus là. Docteur Kemeda, vous avez la parole.
Oui, bon, je vais d'abord répondre concernant les gibiers, bien sûr.
Oui.
Le cas premier peut être le gibier, mais l'épidémie, c'est la transmission intérimaine.
Docteur, devant le micro.
Ouais, oui, allez-y. C'est la transmission intérimaine.
Oui.
Donc, quand vous avez dans les épidémies, transmission intérimaine. Et puis, il est quand la maladie à Kinshasa, bon, ils sont
un prophète de malheur.
Mettez-vous, nous sommes 14 millions ici. Bien sûr, c'est pour cela au niveau de la ville, nous avons les simulations, si l'épidémie de Ebola est à Kinshasa. Nous sommes 14 millions. Ça peut rentrer. Il y a des avions qui viennent de Kindu, d'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez les gens à l'aéroport quand ils prennent la température.
La température.
Oui, ils prennent la température.
Et avec des points de lavage pour éviter.
Tout à fait bien. C'est quoi la température? Parce que Ebola, c'est une fièvre. On dit fièvre hémorragique. Même si c'est la fièvre, quand quelqu'un a la fièvre, il est suspect. On doit le mettre à côté, faire l'investigation pour savoir d'où il vient, est-ce qu'il n'était pas en contact avec un cas qui était confirmé. Mais, Kinshasa, comme j'ai dit, Ebola, nous sommes tous à risque au niveau. Mais il y a des endroits où nous avons des épidémies maintenant. Mais nous ne devons pas souhaiter qu'on puisse avoir Ebola, Kinshasa. Parce qu'avec 14 millions, avec la promiscuité, une grande densité de la population, la circulation, il nous faudrait des grands moyens pour arrêter. Donc, il ne faut pas souhaiter. Mais au niveau de la santé, le ministère de la Santé, on est conscient. C'est-à-dire que maintenant, il y a des formations. Ça fait depuis 2014 que nous avons des formations au niveau de Kinshasa. On fait des simulations. C'est pour que nous puissions prévenir, bien contrôler s'il y a l'épidémie d'Ebola. Bon, à Kindu, ils disent les tests. On ne peut pas faire les tests partout. Les tests qu'on fait, les dépistages, c'est quand quelqu'un est malade. Si quelqu'un n'a pas de ces maladies, vous allez faire, vous dépendez les tests. On ne va pas faire les tests, c'est tout le monde, monsieur, qui n'est pas
tout
malade.
Tout le monde à l'école,
non,
les
non,
enfants.
Vous n'allez pas tout faire.
Oui. Vous serez, ça peut traumatiser
sera,
les enfants.
Tout sera négatif, négatif, on ne peut pas le faire. C'est quoi le signe de la maladie? C'est comme je l'ai dit. La fièvre, moi, je dis, c'est une fièvre. Il y a des signes de début. Il y a des signes qui apparaissent 5 à 6 jours après. Les signes de début, c'est le syndrome grippal, c'est quoi? Vous avez la fièvre, vous avez le maux de tête, vous avez le courbature. Ça, c'est les signes qui apparaissent, qu'on observe les premiers jours au 4e et 5e jour. Après le 5e jour, la deuxième phase des signes, où on appelle la phase humide. Vous avez le diarrhée, le vomissement, le saignement. Hein, le diarrhée, le vomissement, le saignement. Ça, c'est donc les signes, c'est quoi les signes? Vous avez les signes du début, fièvre, maux de tête, courbature, les signes qui sont les mêmes comme les signes des palus. Des palus. Mmh. Donc, comme partout, nos infirmiers sont capables de prendre un palu, donc les premiers signes, on confond avec le paludisme. C'est ainsi que quand il y a une épidémie, une région épidémique, nous faisons des tests. Mais quand il y a une région qui n'est pas épidémique, non, on ne fait pas les tests, on traite comme palu, on fait autre chose, investigation, et puis des trucs différentiels, mais on ne voit pas les... Mais si, par exemple, dans une région qui a toujours des risques, vous avez quelqu'un qui vient avec la fièvre, et puis la fièvre continue. On donne, c'est pas pour faire que les gens paniquent, hein. Quand on fait les autres examens, il n'y a pas... Il n'y a pas de changement. Vous avez les fièvres en plateau qui ne répondent pas aux médicaments contre le paludisme. Là, on peut penser à autre chose. Et puis si maintenant on constate il y a des décès groupés dans un village, là on se dit, attention, il y a un problème. Mais sinon, là c'est comme les palus en sont les signes des palus. Mais après, vous avez les complications. Et ces complications, à ce moment-là, on dit, ah, attention, il y a le vent. Devant Ebola, mais là au niveau de tout le personnel médical du pays connaît les signes d'Ebola. Et même aussi, ça j'insisterai pour. Ici, je demanderai à la population de ne pas dire voilà quel signe. Non, non. Devant tout cas de fièvre. Même à Kinshasa, il n'y a pas Ebola. Quand tu avais la fièvre, il faut aller au centre. Ça peut être un problème compliqué de palu, ça peut être autre chose. La fièvre peut être aussi une maladie infectieuse qui peut être dangereuse, qui n'est pas Ebola, qui n'est pas les palu. Donc, il ne faut pas attendre. Quand vous avez tout cas de fièvre, allez...
Directement aller consulter.
D'aller consulter. Mmh. Et là, c'est là qu'on vous dit ça.
Docteur Anissé qui passe.
Je t'ai parlé de contingences.
Oui.
Pour dire que tout...
Je reviens, le temps de...
Docteur, non, il peut juste dire quelque chose.
Sur le plan des contingences.
D'accord, allez-y alors.
Mmh. Bon, c'est dire ceci. Toutes les provinces ont le plan de contingences pour toutes les catastrophes. Toutes les provinces. Bon. Mais le plan de riposte des maladies infectieuses, même... Maintenant, nous savons, il y a le plan de riposte contre Ebola, province du Sud Kivu. Toutes les provinces qui sont voisines aux provinces touchées, ils ont le plan de riposte. Ça veut dire quoi? C'est quand, si par exemple, ils se souviennent de cas Ebola, ils ont un plan de riposte qui est décrit comment ils peuvent faire pour prendre en charge. Mmh. Bon, je crois aussi que je vais répondre après.
Oui, merci. Merci, docteur Kebela. Ça me pousse exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est en rapport avec ce que c'est Guy Doal de Lubumbashi qui avait parlé des plans de contingence. Mmh. J'ai participé à la préparation du plan de contingence à la DPS Kwilu, pour la province du Kwilu à Bandundu. Avec l'équipe du docteur Bassaké et le docteur Raoul. Et d'ailleurs, pour Glody, qu'il sache qu'en ce moment ici, il y a la revue annuelle, la revue semestrielle, je crois, à Bandundu. Tous les médecins chefs de zone et les médecins directeurs sont réunis là-bas. Mmh. Évitez la rumeur. Docteur Kebela l'a dit, je le répète, parmi les 5 règles, si nous prenons les 5 règles d'or, évitez la rumeur, cherchez l'information à qui de droit, celui qui a la vraie information. Et par rapport à notre ami Mpagne de Lubumbashi qui a parlé de la formation des infirmiers et de complications dans la prévention, un problème de SONAS. Qu'on ne confonde pas. Effectivement, il y a des gens qui ont payé de l'argent pour la SONAS, pour la médecine scolaire. Mais en réalité, quand vous voyez en pratique ce qui se passe dans les écoles, c'est pas la médecine scolaire. Il y a eu même une initiative ici à Kinshasa du docteur René Nguébé avec le carnet médical de santé. Mmh. C'est une belle initiative, mais nous voulons compléter. En tant que médecin de santé publique, surtout dans les contextes où nous avons Ebola aujourd'hui, et docteur Kevela vient de le dire, il y a la définition simple d'Ebola. Il y a aussi la définition simple pour les maladies infectieuses. Nous sommes à Kinshasa. Tout peut arriver. mais seulement dès que vous avez un problème de fièvre, c'est vrai qu'il y a des points de site de traitement communautaire où il y a des relais communautaires, où il y a des aides-soignants qui soignent. Mais maintenant, dans les contextes d'épidémie, que ce soit le Lubumbashi, que ce soit à Ituri ou ici, soyez prudents. Il est recommandé d'aller à l'hôpital parce que les infirmiers sont censés avoir les instruments épidémiologique suffisante pour définir que ça, c'est probablement tel cas. Devant quelqu'un qui a séjourné dans un milieu où il y a eu Ebola, il arrive à Kinshasa, il fait la fièvre. Mais l'infirmier sait que ça peut, dans les hypothèses. Donc, il est très très important de ne pas confondre et surtout d'enrichir ce qu'on paye pour l'assurance dans le cadre de la médecine scolaire. La plupart des IP, je crois des IPP ou des IPS, avant leur rentrée scolaire, ils organisent des séminaires pour la promotion scolaire. Il y a très peu qui invitent le médecin de santé publique, pour aller parler qu'est-ce que c'est la médecine scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui rentrent à l'école maintenant, ils ont des infirmités. Ce ne sont pas des infirmités permanentes. Il y a un enfant qui a une perforation de tympan. Mais cet enfant, il ne va pas capter la matière de la même façon que son collègue qui n'a rien.
Ou l'autre qui a des problèmes de vue, qui ne voit pas très
regardez
bien.
Regardez les enfants qui ont des lunettes ici à Kinshasa. Et à la fin de l'année, la maman rentre pour tapoter sur l'enfant. Moi, Nao Azama, il était. C'est faux. C'est la maman, c'est le papa qui n'ont pas l'information en ce qui concerne toutes les conditions qui permettent à l'enfant de bien s'appliquer à l'école. Mmh. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas, nous sommes prêts à apporter une petite expertise en ce qui concerne, comme l'a fait l'archidiocèse de Kinshasa, comme l'a fait docteur René Nguébé avec cette initiative-là, où l'ECC qui a organisé avec ses cours dentiste international quelque chose ici à Kinshasa. Et on a choisi Lubumbashi et Kinshasa comme des provinces pilotes. Mais surtout, dans le contexte d'Ebola, la médecine scolaire doit être globalisante. Surtout là où le docteur a parlé tout à l'heure dans ces milieux-là et dans les zones à risque.
D'accord. On va accueillir trois autres auditeurs avec lesquels nous allons terminer cette émission. Daniel, vous êtes à Bounia, Malonga, Bandounouville et Maître Machaka, Lubumbashi. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps. Soyez bref dans vos interventions. Daniel de Bounia, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, je dis Chamar. Moi, j'ai deux petites questions par rapport à l'éradication de l'Ebola. Vous savez, chez nous, ici à Bounia, Ebola arrive vraiment quelque chose comme une surprise, quoi. Et quand nous voyons ce qui se passe présentement chez nous ici, nous regrettons. Quant à ce qui concerne le vaccin, disons, l'Ebola, c'est quelque chose dont on peut dire que non, c'est une maladie.
Quelle est la question, Daniel? Vous n'avez pas beaucoup de temps. Quelle est la question?
Oui, je pars à la question. Quant à ce qui concerne le vaccin, on doit aller se vacciner. Une fois allé se vacciner, on doit trouver une solution. Et maintenant, la personne est allée à l'hôpital, mais la personne va mourir. Qui peut encore aller à l'hôpital se faire vacciner? Deuxième question par rapport au point de lavage de mains. Ici, à Bounia, ça revient comme quelque chose dont on va intoxiquer les gens, ou bien on va arrêter les gens. Si la personne refuse même de se faire laver la main, on va l'arrêter. Nous croyons que bon, ce n'est pas bon ici chez nous à Bounia.
D'accord, merci. Malonga de Bandounouville, bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Oui, bonjour Jody. Bon, alors, état une épidémie, maladie virus Ebola. Est-ce qu'on peut s'attendre que ça aura une période, à chaque période on va se préparer pour faire face à cette maladie? Puisque c'est une épidémie, est-ce que ça a une durée à une contrée comme ça?
D'accord, merci. Docteur Kebela, vous avez la parole. Maître Machaka, désolé, on a pris beaucoup de temps.
D'accord, allez-y. D'abord, je veux dire aux gens qu'on ne peut pas vacciner tout le monde comme ça. Et puis, le vaccin, ce n'est pas une panacée. Hein. Mm. En virus Ebola, il y a beaucoup de choses. Surtout ici, c'est surtout sur l'hygiène. Vous lavez les mains. Si vous avez la tube, vous lavez les mains tous les temps. Vous ne pouvez pas attraper. Il n'y a pas seulement Ebola, éviter même le choléra. Mm. Je dirais à celui de Mahag qui dit il n'y a pas de point. Je suis étonné, puisque Mahag, c'est une région endémique de choléra. Et il devait toujours avoir lavage de mains. Il devait avoir même au point, même je crois que là, les écoles devaient avoir tout le temps. Au niveau des écoles, les points, et puis aussi apprendre aux enfants à laver les mains. Bon, même les parents, on ne va pas prendre les gens aujourd'hui pour avant de manger, avant de faire fausser les mains. Il faut qu'on puisse avoir ça comme une culture. Il n'y a pas seulement Ebola, il y a beaucoup de maladies sales. Ça, ça aurait plus de...
Daniel Deplore dit que là-bas, c'est une obligation à Bounia. Si vous ne lavez pas les mains, on vous arrête.
Non, on ne peut même pas obliger quelqu'un pour se laver les mains. C'est comme si vous allez dire, si vous n'avez pas les coups votre corps, on vous arrête.
On, vous
a... on va vous dire, c'est pas, il faut vous laver l'hygiène corporelle.
Oui.
Mais il faut se laver les mains. Et surtout pour Bounia, c'est une région où il y a les choléra, où il y a beaucoup de maladies vives. Donc je crois que ça, c'est un faux problème.
Oui.
Il faut vraiment se laver. Et puis, pour, j'ai répondu, pour la préparation, comme je vous ai dit ici, toutes les provinces du pays, dans leur plan de contingence, il y a une dimension importante de la riposte contre Ebola. Là, partout. Même au niveau des zones de santé. Pourquoi ? Parce que depuis 2000, notre surveillance, notre contrôle des maladies est basé sur la maladie à virus Ebola. Parce que nous sommes le pays qui a connu des grandes épidémies. Donc là, il peut avoir toutes les informations au niveau de leur institut de soins.
D'accord.
Donc je pense que c'est les...
Voilà, c'était la dernière question. Docteur Anissé, pour terminer rapidement.
Oui, rapidement, pour à tous les intervenants, tous ceux qui ont posé, disons, tous ceux qui ont posé de questions à propos de l'hygiène, à propos de vaccins, sachez que jusque-là, on vaccinait les gens qui étaient au front, si vous voulez, les prestataires. C'est comme l'a dit Dr Kebela, on ne va pas vacciner, ça ne va pas être systématique comme on le fait avec le PEF de routine ou même dans les AVS, dans les accélérations. Ici, on protège d'abord ceux qui vont sur le terrain, ceux qui vont soigner et tout ça. Mais il faut que les gens soient calmes parce que ça, l'autre dimension, c'est les traitements. Maintenant, on a les traitements, il faut le savoir. Et il ne va pas dire qu'il a été vacciné, il est allé mourir à l'hôpital. Il n'a pas reçu les MAP 114, il n'a pas reçu les traitements. Nous disons, soyez calmes, pas de panique, pas de rumeurs, évitez à partir des écoliers, des élèves, suivez ce qu'on leur dit à l'école, que tout le monde dans le cadre de la médecine scolaire soit informé, sensibilisé, pour se protéger contre la maladie. C'est de cette façon-là que nous allons gagner la maladie à virus d'Ebola.
Bien, merci beaucoup docteur Anissé qui passe à Expert en Santé Publique. Merci également à docteur Kebela, coordonnateur adjoint du comité de la campagne de riposte contre Ebola. Merci et à la prochaine. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au Quotidien. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.